France Inter.
Aujourd'hui, quand l'agro-industrie met les abeilles au travail, raconté par
Robin Meunier, docteur en anthropologie et apiculteur.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Imaginez que nous remontions le temps il y a 9000 ans à l'époque du néolithique. L'être humain commence à peine à se sédentariser, à cultiver la terre et à modeler l'argile pour en faire des poteries. En 2015, une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature nous racontait que des chercheurs avaient découvert une signature moléculaire unique, celle de la cire d'abeille, en analysant des résidus chimiques piégés dans les pores de poteries préhistoriques. Des côtes de la Turquie au Danemark, en passant par les Balkans et l'Europe centrale, nos ancêtres utilisaient donc déjà les produits de la ruche. Bien avant l'invention de l'écriture, l'abeille était notre allié pour son miel, ce nectar des dieux, mais aussi pour sa cire, utilisée pour étanchéifier les récipients, coller des outils ou peut-être même éclairer les premières habitations. Ce que nous dit cette découverte, c'est que le travail de l'abeille est indissociable de l'histoire de l'humanité. L'abeille n'est pas qu'un simple insecte de nos jardins, elle est l'ouvrière invisible qui accompagne nos civilisations depuis ses premiers pas sédentaires. Mais aujourd'hui, l'abeille n'est plus seulement le synonyme de ce compagnonnage, elle apparaît sous un jour plus complexe, celui d'une travailleuse précarisée. L'abeille ne serait plus une alliée libre, mais un rouage industriel, déplacé par dizaines de milliers de ruches pour garantir des rendements dans un modèle agricole qui, paradoxalement, menace sa survie. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Robin Meunier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être à ce micro, vous qui publiez « Des abeilles au travail, productivisme agroécologique et précarisation du vivant ». C'est aux éditions de La Découverte, un livre qui nous fait découvrir comment les abeilles, donc loin de l'image d'épinal de la nature sauvage, sont devenues de véritables ouvrières intégrées à une logique industrielle et agroécologique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de décrire l'activité donc des abeilles comme un véritable travail au sein de nos sociétés modernes ?
Pour commencer, en fait, quand je me suis intéressé à ce sujet, je démarrais un travail de master et je voulais assez classiquement m'intéresser aux mobilisations des apiculteurs et apicultrices contre les pesticides. Et à ce moment-là, j'ai découvert ce qu'était donc le service de pollinisation. Donc on y reviendra, mais c'est vraiment cette location de colonies d'abeilles par des apiculteurs à destination d'agriculteurs qui en font la demande pour féconder leurs parcelles. Et donc quand j'ai découvert ce service de pollinisation, ça a piqué ma curiosité, puisque tout d'un coup, l'abeille, comme vous l'avez dit, qu'on décrit comme une victime des pesticides, tout d'un coup était mise au service de l'agriculture et rencontrait ses produits dans les cultures. Donc ça, c'était c'est la première curiosité, mon point de départ, qui m'a intéressé pour essayer de comprendre, en fait, non pas l'abeille comme une productrice de miel, mais bien comme un pollinisateur utilisé dans une agriculture assez intensive.
Et ça, c'est une façon de percevoir l'abeille qui n'est pas très commune, quand même, hein ?
Non, parce que c'est un service qui est relativement invisible. On en a peu conscience. En fait, on connaît beaucoup l'activité de l'abeille, le fait que, par exemple, 80% environ des plantes cultivées seraient pollinisées par son activité, que sans elle, on aurait des étals de marché vides de beaucoup de fruits et de légumes. Donc on connaît cette pollinisation qui structure en tant qu'infrastructure écologique de notre monde. Mais ce qu'on connaît moins, en fait, c'est que il y a une mise au travail organisée.
Ouais.
Et c'est ça qui est relativement méconnu. Par exemple, le fait que l'huile de tournesol que nous consommons tous les jours dans nos cuisines provient donc d'un tournesol dont la graine a été pollinisée par une abeille qui a été louée, amenée dans des parcelles de tournesol expressément pour favoriser le rendement.
Quelle est la différence fondamentale entre l'apiculture traditionnelle, pour vous par exemple, qui êtes apiculteur, et cette mise au travail systématique des colonies ?
En fait, ce qui est assez intéressant dans le service de pollinisation, donc chez les apiculteurs et les apicultrices qui vont proposer aux agriculteurs et à des grandes entreprises de louer leurs colonies d'abeilles, donc pour maximiser la présence de butineuses et donc maximiser la pollinisation, c'est qu'en fait, ce service, il concerne environ un tiers des 3000 apiculteurs et apicultrices professionnels en France. Donc c'est quand même...
C'est conséquent.
C'est assez conséquent.
Ouais.
Et surtout, ça concerne une très grande diversité d'exploitations apicoles françaises. Il ne faut pas forcément imaginer que les personnes qui pratiquent la pollinisation sont des apiculteurs ou des apicultrices qui posséderaient des milliers de ruches. Il y a des personnes qui... Bon, moi, je ne pratique pas le service, mais qui, comme moi, par exemple, possèdent une centaine de colonies d'abeilles ou 200 colonies d'abeilles, qu'à l'échelle des structures des exploitations françaises, ce sont des petits cheptels, mais avec lesquels on peut commencer à en vivre. Et ces personnes-là aussi peuvent, dans certains territoires, comme la vallée du Rhône, où j'ai mené mon enquête, peuvent proposer de louer leur colonie d'abeilles, avant tout, parce que ça permet de faire rentrer de l'argent dans les exploitations, apporter de la trésorerie, payer les charges, payer le gasoil, payer les pots en verre, pour le miel, etc., etc.
Donc là, dans ce cas, l'abeille devient un outil de rendement, en fait. Hein.
Exactement, c'est ça.
Il y a un tiers des apiculteurs en France qui pratiquent
qui
ça.
Qui pratiquent ce service-là. C'est un service qui reste, malgré tout, extrêmement minoritaire. Si on prend, par exemple, le chiffre d'affaires des exploitations françaises, l'apiculture française reste véritablement structurée autour du miel. C'est l'identité des apiculteurs et des apicultrices. On vient à ce métier pour avant tout produire du miel, mais pour diversifier les revenus, les compléter à des moments où on a peu de rentrée d'argent, à des moments où on est en phase d'installation, donc on doit payer toute une partie des charges. C'est à ce moment-là qu'en fait on commence à intégrer ce service-là.
Ouais. À partir de quand d'ailleurs sont nés ces services-là dans l'histoire de l'agriculture française ?
Alors, française, on note les premières traces de location de ruches dans les années 60. Dans le monde, c'est dans les années 1920, en Californie. En fait, ça structure un peu une logique qu'on va retrouver à différents endroits du globe. C'est que dans les années 1920, en Californie, on a une arboriculture qui se développe à très grande échelle. Donc, des vergers très intensifs, avec l'usage d'arsenic pour lutter contre certains insectes nuisibles. Et à ce moment-là, les agronomes et les arboriculteurs de l'époque commencent à remarquer qu'ils sont en train de détruire la faune des pollinisateurs sauvages. Et quelle solution possèdent-ils pour pallier à cette destruction qu'ils sont en train d'engendrer ? Eh bien, c'est de contacter des apiculteurs qui commencent à ce moment-là à pouvoir déplacer les colonies d'abeilles sur des camions pour pouvoir venir compenser cette perte et donc apporter des abeilles domestiques.
Donc là, on est dans un vrai paradoxe, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on fait appel à des solutions biologiques, donc l'abeille, pour compenser des dégâts d'une agriculture qui les détruit, en fait. Hein.
Bah, c'est effectivement, on se rend compte que historiquement, à partir du moment où les territoires agricoles devenaient moins hospitaliers pour les pollinisateurs, et encore une fois, c'est vraiment des choses qui sont racontées par les agronomes des années 1920, par les agriculteurs aussi de l'époque, qui ont clairement conscience en fait de détruire cette faune des pollinisateurs. Donc au moment où ça devient moins hospitalier, c'est là que l'abeille domestique est appelée à la rescousse en fait pour venir maintenir des hauts niveaux de productivité.
Ouais. Et en France, on est dans les mêmes cas de figure
hein. En France, on est dans les mêmes cas de figure. Les premières traces arrivent dans les années 60. Donc là aussi, au moment où on voit dans le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône des domaines arboricoles qui commencent à s'implanter sur de grandes surfaces. On a évidemment une simplification des écologies agricoles à ce moment-là. On a évidemment une utilisation de plus en plus massive de produits pesticides, insecticides notamment. Et donc c'est véritablement... On suit la même logique. C'est vraiment dans une phase de modernisation. En fait, l'abeille a permis d'accompagner cette modernisation agricole qui, évidemment, lui a pas forcément été bénéfique.
Robin Munier, on va écouter justement l'extrait d'un reportage de France 2. C'était en 2019 en Californie. Vous en parliez, les abeilles au secours des amandes.
Elles se préparent pour une grande migration. Ces abeilles vont parcourir 4500 km en camion de la côte est américaine à la Californie. Destination, ces champs d'amandiers en fleurs.
C'est comme une zone de guerre. On amène nos soldats sur le front et la bataille, c'est tout le travail qu'accomplissent les abeilles.
Des abeilles pour polliniser les fleurs et permettre aux amandes de pousser.
Regardez, cette ruche est en pleine forme, elle a beaucoup d'abeilles.
Robin Munier, est-ce qu'on peut dire finalement que dans ce cas-là, les abeilles deviennent comme du bétail pour les apiculteurs professionnels qui ont besoin justement, au travers d'une certaine forme de domestication, de faire appel à leurs services ?
Alors non, puisqu'il y a des très grandes différences. C'est une lecture qu'on pourrait avoir, moi ce n'est absolument pas la lecture que j'en fais, notamment parce qu'aux États-Unis, le service de pollinisation est vraiment... presque plus important que la vente de miel aux États-Unis. On a des entreprises qui sont d'apiculture qui sont hyper spécialisées là-dedans. En France, c'est pas du tout ce qu'on observe. Et en fait, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de grandeur. On a des apiculteurs et des apicultrices qui pratiquent le service de pollinisation pour louer à un voisin producteur de fruits ou producteur de grandes cultures une vingtaine de ruches, une trentaine de ruches. Des fois, on loue les ruches à un cousin ou à une tante. Et donc, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était aussi de voir comment ces relations de proximité sur les territoires ruraux entre apiculteurs et agriculteurs, elles se structuraient en fait aussi dans des liens parfois d'amitié, parfois avec de très fortes tensions. Mais en tout cas, on n'est pas dans une, on peut pas dire dans le cas français qu'on balance des abeilles comme du bétail dans... Ouais.
Mais est-ce qu'il y a quand même une sorte de transhumance industrielle, finalement, même en France, avec ces camions qui transportent ces ruches pour, encore une fois, faire appel au service des abeilles ?
On observe en France des transhumances d'abeilles, effectivement, c'est la base de l'apiculture professionnelle. Après, encore une fois, c'est une différence d'échelle. Ouais. Aux États-Unis, on peut observer les apiculteurs ont des convois de poids lourds, chacun possède 200, 300 colonies d'abeilles. En France, on n'est pas forcément dans ces ordres de grandeur. Les apiculteurs qui transportent le plus de ruches en même temps, on transporte une centaine. Donc on n'est pas sur des milliers tout d'un coup. Donc c'est vrai que si on applique le mot industriel au cas américain, je trouverais ça un peu... On grossirait le trait si on l'appliquait au cas français. Et encore une fois, la transhumance se pratique depuis plus d'un siècle. On n'est pas... c'est pas forcément un marqueur d'industrialisation.
Est-ce qu'il y a quand même des impacts directs de ces déplacements sur la santé, le cycle naturel d'avis, des colonies d'abeilles, le fait de faire ces voyages, précisément, ou pas ?
En tout cas, ce qu'on observe en tant qu'apiculteur, c'est qu'une fois qu'on a déposé les abeilles et qu'elles s'envolent, elles se renvolent très très vite en direction des fleurs. Donc le transport en tant que tel ne semble pas les perturber.
Ouais. Comment les apiculteurs vivent justement ce basculement quand même d'un métier de passion d'apiculteur vers un métier de prestataire de service finalement pour l'agro-industrie ?
En fait... En France, on n'observera pas d'apiculteurs ou d'apicultrices qui se définiront comme prestataires de l'agro-industrie. Encore une fois, c'est un service qui reste minoritaire, qui diversifie les revenus des exploitations, qu'avant tout, ils se diront en train de produire du miel. Ce qui n'empêche pas que des apiculteurs ou des apicultrices louent des ruches à des grandes firmes semencières qui ont besoin des abeilles pour, par exemple, produire des semences de tournesol ou de colza, et qui sont les mêmes entreprises qui vendent des pesticides, voire par exemple des insecticides néonicotinoïdes contre lesquels les apiculteurs restent vent debout. Donc effectivement, on a des apiculteurs qui rentrent en relation professionnelle, en relation de travail avec ces entreprises, mais eux-mêmes ne se définiraient absolument pas comme mis au service de l'industrie. Voilà.
Et la question des pesticides, évidemment, elle est centrale. On va en parler dans un instant avec vous, Robin Munier. Vous publiez donc ce livre « Des abeilles au travail, productivisme agroécologique, précarisation du vivant ». C'est le sous-titre de cet ouvrage qui sort aux éditions de La Découverte.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Peter Hainaut est inquiet pour sa production et son avenir. Cet apiculteur professionnel vient de perdre en Dordogne cet hiver plus de 80% de ses abeilles.
Donc là, il y a toutes les ruches qui sont mortes en début de printemps.
Ces ruches auraient été intoxiquées. 250 au total. Pour ce responsable apicole de Dordogne, ce phénomène n'est pas isolé. Le département a perdu plus de 3000 ruches.
Un hectare et demi de colza, ça suffit à vous tuer tout un rucher. Et que ce soit du blé ou du maïs. Donc il n'y a pas besoin de quantité industrielle. C'est vrai que l'abeille va très loin.
En attendant, Peter Hainaut a dû racheter de nouveaux essaims. Il ne produira pas de miel de printemps.
Archives de 2018, la date est importante sur France 2 pour parler des pesticides et des néonicotinoïdes en particulier. Robin Munier, vous qui publiez Des abeilles au travail aux éditions de La Découverte, puisqu'il faut préciser que depuis 2018, l'utilisation de ces produits est interdite en agriculture. Il n'empêche que, évidemment, beaucoup d'apiculteurs ont vu leur population d'abeilles s'effondrer à cause précisément de l'usage de ces pesticides tueurs d'abeilles. Est-ce que la dépendance justement à ces produits a rendu le travail de l'abeille particulièrement risqué aujourd'hui ?
Alors oui, c'est sûr que les territoires agricoles ne sont pas des espaces neutres pour l'abeille, et chaque année on voit passer dans la profession apicole des histoires comme celle dont on vient d'entendre un extrait. Après, ce qui, moi, m'a véritablement intéressé en observant le service de pollinisation, c'était d'observer que les apiculteurs et les apicultrices qui louent leurs ruches à des agriculteurs et à des entreprises le font aussi dans un acte qui peut paraître paradoxal, mais de protection de l'abeille. Dans le sens où, en allant rencontrer un agriculteur ou une agricultrice voisin pour lui louer des ruches, on rentre dans un dialogue direct avec cette personne. Et donc, justement, les apiculteurs sont très intéressés par le fait de sortir de ces discours que eux-mêmes, ou que nous-mêmes, je m'intègre aussi dans la profession apicole, appelons médiatiques, qui des fois opposent de façon caricaturale apiculture et agriculture, alors que, au contraire, moi, pendant mon enquête, j'ai pu voir que sur le terrain, dans des sociabilités rurales, agricoles, ces liens-là s'entretiennent et les apiculteurs cherchent justement à donc passer un ensemble de recommandations pour défendre leurs abeilles. Dans le sens où, typiquement, si on pose des ruches dans un verger d'abricotiers voisin, on va en poser, je sais pas, une vingtaine par exemple, pour imaginer un peu des proportions, l'apiculteur va demander à l'agriculteur de bien s'assurer de pulvériser les pesticides la nuit. Bon, depuis un nouveau plan pollinisateur, depuis 2021, c'est une obligation légale. Quand moi j'ai fait mon terrain, c'était pas encore systématique pour les herbicides et les fongicides. On va demander de broyer toutes les fleurs qui peuvent pousser au pied des arbres, sur lesquels les insecticides, par exemple, pourraient venir se déposer et sur lesquels les abeilles pourraient venir butiner. Et donc, on a véritablement un travail politique qui va dans le sens d'une protection de l'abeille, malgré le fait qu'elle soit exposée.
Donc c'est paradoxal quand même.
C'est une position qui est ambivalente et qui apporte son lot de réussite. Je nuancerai par la suite. En tout cas, il y a des apiculteurs qui ont l'impression d'avoir fait changer certaines pratiques chez des agriculteurs de leur territoire. Après, effectivement, il y a encore beaucoup de problèmes causés par les pesticides. Des fois, c'est pas forcément sur la parcelle à polliniser que les abeilles vont aller s'intoxifier, c'est sur une parcelle à côté, c'est chez un autre voisin, donc c'est pour ça que les territoires restent dangereux. Et c'est paradoxal, ça passe par une culture du compromis, de la négociation, le fait de peut-être de polisser un peu la critique que les personnes peuvent faire des pesticides, en tout cas quand on est dans une discussion de terrain, de quotidienne.
Ouais. Pourquoi il faudrait polisser justement la critique qu'on fait envers les pesticides alors que ça a des incidences concrètes quand même sur ces animaux?
Évidemment, c'est tout l'enjeu de comment l'apiculture et l'agriculture coexistent. Et non pas, en fait, il faudrait en fait non pas parler en termes d'apiculture et d'agriculture, mais bien le recentrer sur les personnes. Comment apiculteurs et agriculteurs, agricultrices coexistent sur un territoire et...
Donc la question c'était, oui, pourquoi polisser en fait les discours?
Exactement, parce que sur le terrain en fait le climat est assez tendu, notamment parce que dans le monde agricole, l'abeille est porteur d'une charge écologique, d'une charge
C'est devenu un symbole aujourd'hui.
C'est devenu un symbole en fait environnemental, et donc le fait de rentrer en relation avec des apiculteurs, il y a forcément très rapidement des craintes d'être attaqué, critiqué pour justement les dégâts qu'on pourrait causer sur les abeilles. Et ça, on peut l'ancrer dans l'agribashing duquel l'agriculture des fois a l'impression d'être perpétuellement attaquée par la société civile, par le grand public et notamment par les apiculteurs qui ont une place quand même très singulière dans le monde agricole puisqu'ils font intrinsèquement partie du monde agricole, mais ils sont systématiquement intégrés à la lutte écologiste. Et donc ça crée un climat qui peut parfois être tendu. Et donc c'est pour ça que les apiculteurs ne rentrent jamais dans les discussions de manière frontale, pour ne pas crisper une situation qui pourrait être déjà crispée. Par contre, dès qu'il y a un problème, j'en raconte plusieurs dans le livre, dès qu'un apiculteur va visiter ses ruches dans un verger et voit que l'agriculteur s'est soi-disant trompé sur son planning de traitement et qu'un ouvrier pulvérise un herbicide sur les ruches, là, évidemment, toute la diplomatie qu'on met pour aborder ces sujets est battue en brèche et là, on a vraiment une critique très virulente qui est faite.
Mais Robin Munier, il y a quand même une réalité, c'est que l'usage des produits phytosanitaires a eu un impact considérable sur les populations d'abeilles, avec des effondrements de populations dans des proportions quand même très très importantes. Je pense que beaucoup d'apiculteurs et apicultrices en France
C'est ça qui est intéressant.
Pourraient témoigner en ce sens.
Exactement. Hein. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que des apiculteurs et des apicultrices, et on en suit énormément à l'intérieur du livre, entreprennent ces stratégies de dialogue que je raconte là à l'instant, et dans le même temps, font partie de syndicats, de structures techniques qui, à l'échelle nationale, voire à l'échelle européenne, luttent contre les pesticides. Et en fait, on se rend compte que cette lutte contre les pesticides, elle se joue avec différentes modalités d'action dans différentes arènes. Aucun apiculteur ou apicultrice, où on doit les compter sur le doigt de la main, je sais qu'il en existe, ne réfute la dangerosité prouvée scientifiquement des pesticides. Mais en tout cas, comme je viens de le dire, le problème est abordé avec des stratégies assez différentes.
C'est ça. Et c'est votre regard aussi d'anthropologue qui est intéressant sur ces questions, puisque vous dites bien et vous mettez en avant effectivement l'enjeu des liens, du dialogue, et de ne pas précisément refuser ou se couper d'individus qui sont aussi des voisins, des gens avec lesquels on travaille finalement.
Moi, ce qui m'intéressait de comprendre, c'était vraiment comment cette question des pesticides et de la mise au travail de l'abeille, elle se négociait dans la quotidienneté des relations. Puisque, avec la loi Duplon, on a beaucoup entendu parler de pesticides, mais en fait, finalement, on s'intéresse assez peu sur le terrain à la manière dont les choses se passent et dont ce dialogue peut avoir lieu.
Ouais, donc c'est un enjeu aussi important.
C'est un enjeu
dans la réalité des territoires. Exactement. Est-ce que y a une hiérarchie entre les différentes espèces d'abeilles dans cette organisation du travail de la nature, justement ?
Vous voulez dire entre...
Est-ce que certaines espèces d'abeilles sont dédiées à des fonctions particulières ou pas ?
Alors, bon, sans parler d'espèces, si on s'intéresse vraiment à l'abeille domestique, Apis mellifera...
C'est la reine de ce système, finalement, on peut le dire ?
C'est la reine de ce système. C'est effectivement, c'est parce qu'elle est élevée par des apiculteurs et des apicultrices. C'est celle qui est le plus facilement déplaçable. Mais on voit arriver, en fait, effectivement, sur le marché de la pollinisation, d'autres insectes. Typiquement le bourdon, qui est élevé depuis les années 90 dans des usines, qui peut être vendu par millions, notamment pour polliniser sous les serres, la pollinisation des fraises, la pollinisation des tomates. Et puis on a aussi des petites abeilles solitaires, les osmies ou les mégachiles, que certaines start-up tentent d'implanter en France, qui sont plus implantées dans d'autres pays. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'argumentaire de ces entreprises, qui vendent ces nouveaux pollinisateurs comme des nouveaux produits écologiques pour continuer d'accroître le rendement, ils mettent en avant auprès des agriculteurs que le fait de recourir à ces insectes éviterait aux agriculteurs d'avoir à entreprendre une démarche de relation professionnelle avec les apiculteurs. Et que donc, ils s'éviteraient de rentrer en contact avec une profession qui est contestataire, qui pourrait porter une critique contre la manière dont les pesticides pourraient être utilisés. Et donc, c'est ça qui est vraiment, je trouve, assez intéressant dans le discours de ces entreprises qui se vendent d'être écologiques, mais qui, en même temps, proposent des manières
d'éviter d'avoir affaire aux personnes qui défendent réellement
qui
l'écologie.
Des contestations assez radicales.
Robin Munier, on va écouter un extrait d'Arte, c'est un documentaire en 2017, « Les maîtres des abeilles » de Jérôme-Cécile Auffray.
Norbert n'est pas un apiculteur récoltant. Il est maître en apidologie. Son métier passe par une intense observation des abeilles, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie.
Au premier regard, on pourrait croire qu'une ruche, ce n'est qu'une pagaille. On a l'impression d'une grande bousculade, d'un chaos. En réalité, à force de les observer, on finit par voir en chaque colonie un être vivant avec sa propre personnalité. En fait, chaque ruche est habitée par un être singulier, comme nous les hommes. On est tous différents les uns des autres.
La voix de Norbert Popleu, il est apiculteur au cœur de la Forêt Noire, donc en Allemagne, à Rosenfeld. Et il a développé une philosophie apicole inspirée du comportement de l'abeille sauvage. Robin Munier, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous l'entendez ?
Moi, c'est vrai que c'est assez éloigné de l'apiculture professionnelle que les personnes mettent en œuvre sur les terrains, sur le terrain sur lesquels j'ai enquêté et sur le terrain où je travaille dorénavant. Je pense que tous les apiculteurs et les apicultrices ont une véritable fascination pour les abeilles, une manière de s'immerger au contact de la colonie, parce que c'est en comprenant la vie dans toute sa complexité qu'on arrive aussi, parce que c'est véritablement la stratégie de l'apiculture, de produire du miel, en fait, et de faire vivre les abeilles, d'arriver à les reproduire. Et encore une fois, le fait que les apiculteurs se passionnent pour ces abeilles et pour la complexité de la vie dans leur colonie ne les empêche pas de mettre au travail leurs abeilles dans les vergers.
Qu'est-ce que vous entendez par ce terme de précarisation du vivant, alors, au sujet des abeilles ?
Pour amener cette question, je pense qu'il faudrait aussi beaucoup on aurait besoin d'expliquer que le service de pollinisation actuellement en France, il est énormément mis en œuvre par des grandes firmes agro-industrielles qui, pour les questions de l'enquête, je garderai leur nom anonyme, mais qui font partie des 10 plus grandes entreprises mondiales productrices de semences, qui sont pour la plupart aussi des vendeuses de produits pesticides, et qui engagent en France, mais aussi dans d'autres pays dans le monde, des dizaines de milliers de ruches.
C'est le paradoxe dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, quand même, hein. Exactement. Et ces entreprises donc qui recrutent des apiculteurs, qui les contractualisent le temps de la pollinisation, mettent au travail. Et avant de parler de précarisation, c'est le terme de mise au travail qui, moi, m'intéresse. C'est la manière dont la vie de l'abeille, l'existence, est enrôlée dans un acte de production. Et en fait, s'il y a précarisation, c'est parce qu'on se rend compte que ces grandes firmes, en enrôlant les abeilles, elles les confrontent à des conditions de travail qu'on vient de décrire qui sont particulièrement exigeantes. Et par le terme précarisation, j'entends, dans la suite d'une philosophe américaine, Judith Butler, que les abeilles sont rendues plus... elles sont exposées à quelque chose et elles sont dépendantes de personnes pour continuer à vivre. Et c'est en ce sens-là où les abeilles, elles sont précarisées dans les territoires agricoles parce qu'elles deviennent de plus en plus dépendantes du travail des apiculteurs pour rester en vie, puisque c'est actuellement l'apiculture professionnelle qui est en mesure, enfin, qui détient une très grosse majorité du cheptel français. Et c'est aussi cette apiculture-là qui a, il faut le dire, et là je m'inclus encore une fois dedans, qui a intensifié une partie de ses pratiques avec le recours à du renouvellement beaucoup plus fréquent, des suivis sanitaires, du nourrissement lorsqu'il y a des périodes de disette, et qui prend la charge d'entretenir le cheptel français pour le garder disponible pour la pollinisation. Et ça, c'est une charge de travail qui est souvent invisibilisée et qui s'est notamment intensifiée par cette précarisation des abeilles.
On va revenir sur la question de la mise au travail des abeilles. C'est l'objet de cet ouvrage, Des abeilles au travail, publié aux éditions de La Découverte et que vous signez, Robin Munier.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Grâce au soleil, elles vont reprendre leur nouveau repère pour retrouver leur ruche. Et là, elles auront tous les arbres fruitiers pour aller chercher du pollen, du nectar. Elles seront contentes. Elles auront bien à manger, elles vont être bien.
Comme le bétail, certaines abeilles aussi effectuent leur transhumance. Denis Chantreau les emmène dans la vallée de la Saône, où il travaille depuis 4 ans avec un arboriculteur.
Salut Pierre, ça y est, je t'apporte les ruches pour la pollinisation.
Très bien.
Doucement, les premières abeilles montrent le bout de leurs antennes. Elles vont être les premières à butiner à quelques jours du printemps.
Dès que la température va se réchauffer dans la journée, là, directement, elles vont aller chercher de la nourriture. Donc, plus loin, il y a les abricotiers et les pêchers. Elles vont aller travailler sur cette parcelle.
Voilà, reportage de France 3 Bourgogne en mars 2019, Robin Munier. Reportage qui illustre bien finalement ce dont vous nous parliez là tout à l'heure,
hein, exactement,
sur les liens entre les apiculteurs et les agriculteurs, et donc ces liens aussi de proximité qui sont extrêmement importants.
Et d'ailleurs, oui, des liens professionnels et de contractuels aussi.
Vous employez ce terme de productivisme agroécologique. Alors, il faut nous l'expliquer parce que ça paraît complètement contradictoire. Pourquoi est-ce que vous dites précisément que ce productivisme cherche à rendre la nature plus performante que la nature elle-même en réalité ?
Depuis quelques dizaines d'années, l'agriculture, mais comme la société en général, est marquée par par une transition écologique qu'on repère dans tout un ensemble de domaines. Et cette transition invite l'agriculture à réformer son modèle en l'invitant à produire mieux, tout en gardant la perspective de produire plus. Donc ça, c'était les grands mots qui étaient au centre du plan agroécologique pour la France, par exemple mis en place par François Hollande sous sa présidence dans les années 2010. Et donc, dans cette agroécologie mise en œuvre par des acteurs de l'agriculture dominante, des structures étatiques, des syndicats agricoles ancrés dans le productivisme, mais aussi des agriculteurs, on a cette volonté de s'approprier, d'enrôler les capacités des êtres vivants, les fonctions écologiques, pour continuer d'accroître le rendement.
Donc au service du productivisme.
Au service du productivisme. Donc on a une réappropriation de ces principes de l'agroécologie qui sont portés dans d'autres sphères de l'agriculture par des mouvements beaucoup plus contestataires, mais qui en tout cas, c'est le terme qui a été utilisé. On pourrait parler de productivisme écologique, on entendrait la même chose, ou d'écologie intensive. Et c'est aussi des labels que des agriculteurs ou que des organisations agricoles essayent de se réapproprier pour essayer de montrer à quel point elles continuent de répondre à cette grand enjeu de l'agriculture productiviste, nourrir le monde.
Mais c'est quoi, c'est du greenwashing, clairement?
Non, ou... c'est pas... Alors, par moments, c'est mis en avant dans le discours, effectivement, quand on voit une abeille sur un paquet de biscuits ou quand on voit une abeille sur un sachet de tomates emballé dans le plastique où c'est marqué « pollinisé naturellement ». Effectivement, on a une dimension communication qui est très forte. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est aussi que l'agriculture connaît des crises de productivité. En tout cas, c'est ce que les acteurs qui mettent en œuvre l'agriculture conventionnelle disent. Et donc, ils cherchent des nouveaux leviers pour continuer d'accroître le rendement. Et donc, la nature vivante, que l'on a souvent imaginée, en tout cas dans la pensée critique ou dans les sciences humaines et sociales, on imaginait que seules les agricultures dites alternatives produisaient avec une nature vivante, à laquelle on attribuait des compétences, à laquelle on reconnaissait des aptitudes. On se rend compte que des services en recherche et développement dans ces firmes semencières dont je parlais, des agriculteurs, commencent eux aussi à offrir des compétences nouvelles aux êtres vivants, à des vers de terre, à des abeilles, à des oiseaux qui pourraient lutter contre des ravageurs. Et encore une fois, ils cherchent à enrôler ce vivant dans des écologies agricoles extrêmement intensives.
Donc à quel prix précisément pour ces êtres vivants? Parce que si on parle des abeilles, qu'est-ce que ça veut dire qu'une mise au travail s'entend mort finalement pour répondre à la demande productiviste?
Alors, justement, il y a cette forme de précarisation dont on parlait tout à l'heure. 100 ans mort, ça serait aussi à nuancer, puisque les abeilles passent dans ces écosystèmes quelques semaines dans l'année, et parfois les apiculteurs, après, les emmènent dans des territoires où, justement, elles vont pouvoir trouver du nectar et du pollen en abondance, entre
guillemets, un peu pour se refaire. C'est assez intensif, quand même.
Pour se refaire une santé. Et en tout cas, oui, ça crée des perturbations. Enfin, ces écosystèmes ne sont pas sans conséquences pour l'abeille.
Lesquels,
pour l'abeille.
Alors, par exemple?
Alors, typiquement, on sait que, bon, pour parler des pesticides qui traversent tout ce sujet de la pollinisation, on sait que les fongicides créent des perturbations dans les intestins de l'abeille, ce qui les empêche qui les rend beaucoup plus vulnérables face à certains virus. On sait que les insecticides néonicotinoïdes perturbent énormément les abeilles sur leur capacité à retrouver leur ruche, dans leur manière donc de se déplacer.
Ouais.
On sait aussi que ce sont des écosystèmes agricoles intensifs où les abeilles vont parfois être carencées. Elles vont avoir du mal à trouver la diversité de pollen dont elles ont besoin. Elles vont pouvoir trouver, par exemple, sur un arbre fruitier du pollen en grande quantité. Mmh. En fait, elles ne vont pas avoir la diversité qui est nécessaire donc pour entretenir la progéniture, nourrir la reine, etc., etc. Et donc ça crée des carences dans la colonie et ça crée tout un ensemble de faiblesses.
Et donc il y a quoi ? On peut parler d'un épuisement de l'abeille ouvrière dans ces systèmes-là de pollinisation intensive ou pas ?
Il y a des apiculteurs, ceux qui font vraiment de la pollinisation disons très régulièrement dans l'année, où souvent la même colonie d'abeilles, la même ruche va faire une pollinisation sur l'abricotier, sur le pommier, puis aller sur les colzas semences, puis sur les tournesols semences. Effectivement, j'avais un agriculteur qui avait conscience que en emmenant la même colonie d'abeilles de manière répétée en pollinisation dans ces écosystèmes, ça posait beaucoup de problèmes. En tout cas, ça lui demandait énormément de travail pour soigner ces colonies. Après, il y a d'autres apiculteurs qui vont préférer faire passer les colonies en pollinisation qu'une seule fois dans l'année, pour justement essayer d'amoindrir les conséquences que cela peut avoir. Donc c'est difficile d'homogénéiser les réactions qu'ont les apiculteurs face à la pollinisation. On a plein de stratégies très différentes. On a plein de stratégies différentes.
Mais sur les apiculteurs que vous avez rencontrés donc pour cette enquête, qu'est-ce qu'ils vous répondent? De quelles réflexions ils vous font part, justement, quand ils voient leurs abeilles utilisées de cette façon-là? Est-ce qu'il y a un moment où, pour eux, ça devient un petit peu dissonant?
Ça devient dissonant quand ils sont confrontés à des gros problèmes, donc typiquement une intoxication. Ça devient aussi dissonant avec le temps, puisque avec le temps, je veux dire, dans la carrière des apiculteurs. On se rend compte que plus un apiculteur avance dans sa carrière, moins il pratique la pollinisation. Justement, lassé des problèmes qu'il peut rencontrer, lassé finalement des changements de pratique que j'ai cherché à expliquer, et qu'ils ne se font jamais assez vite, puisque l'abeille continue donc d'être précarisée. Donc effectivement, il y a une forme de lassitude. Des fois, il y a des très fortes remises en question. Le problème, c'est aussi que les acteurs agricoles qui contractualisent, donc les grandes firmes qui contractualisent les apiculteurs, ont souvent tendance à dévaloriser les apiculteurs, à les mettre dans la position que les apiculteurs ne seraient pas assez techniques, jamais assez à la hauteur. Et donc, les apiculteurs ont aussi un ethos professionnel de faire face, en fait, à cette critique et de montrer qu'eux aussi, ils peuvent réussir la pollinisation, professionnaliser ce service. Donc, effectivement, on a des positions ambivalentes.
Est-ce qu'il y a aussi une précarité du métier même d'apiculteur ? Parce qu'on parle de la précarité des abeilles, mais celle des professionnels qui s'en occupent aussi.
Elles sont intrinsèquement liées. La précarité des apiculteurs, pour être honnête, elle ne dépend pas que des écosystèmes agricoles. C'est un métier qui, comme beaucoup de métiers en agriculture, est extrêmement soumis aux aléas climatique, voire même météorologique, très selon comment une semaine se passe. On a aussi beaucoup de parasites qui posent des problèmes. Et donc, quand se rajoute en plus de cela le problème des pesticides, ça crée des situations délicates sur les exploitations. Ces dernières années, avec la guerre en Ukraine, il y a eu aussi des grosses tensions sur le marché du miel, des difficultés à vendre le miel. Et donc, pris ensemble, tous ces facteurs challenge les entreprises.
Ouais. Est-ce qu'il y a des mouvements justement qui revendiquent au sein des apiculteurs un statut différent précisément pour l'abeille, moins proche de cet animal de rente là que vous nous décrivez, Robin Munier ?
Alors oui, moi c'est pas les apiculteurs et les apicultrices que j'ai rencontrés, c'est assez... En tout cas c'est pas... L'apiculture en fait, ce qui est à la fois fascinant et à la fois très... Là je vais utiliser un mot... un peu grossier, mais bordélique, ouais. Parce que c'est ce qui fait aussi le charme de cette filière, c'est qu'on a à la fois des apiculteurs professionnels qui vivent de cela, et à côté des 3000 apiculteurs et apicultrices professionnelles, on a environ 67 000 personnes en France qui possèdent des ruches, parfois une ou deux. Et donc en fait, on imagine bien qu'on a une diversité de manières de rentrer en relation avec l'abeille, une diversité de pratiques, une diversité de manières de produire du miel. Et tout ça, parfois, ça crée aussi beaucoup de conflits à l'intérieur même de l'apiculture. Parce qu'il y a des apiculteurs qui pourraient dire « Ah, mais vous êtes des apiculteurs industriels, vous mettez au service de l'agriculture dominante, etc. » Moi, ce que j'essaye de montrer, en tout cas dans le livre, c'est que les positions de l'apiculture professionnelle sont beaucoup plus complexes que les images caricaturales qu'on pourrait en avoir.
Pour terminer, votre double regard à la fois d'apiculteur et d'anthropologue, ça a changé votre façon, vous aussi, de vous occuper de vos abeilles ou pas, tout simplement ?
En tout cas, vu que j'ai l'impression que depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de l'ambivalence, j'ai parfois les deux casquettes qui me rappellent, ou quand je parle en tant qu'anthropologue, j'ai une petite voix d'apiculteur qui me dit oui, mais sur le terrain, des fois c'est aussi plus complexe, et puis des fois quand moi-même je mets aussi en œuvre des pratiques qui peuvent être aussi intensives, quand par exemple je dois nourrir mes abeilles, quand je dois les traiter contre certains parasites, quand je vais un peu vite, que je suis un peu brusque avec elles, parce que c'est aussi la réalité parfois de l'apiculture professionnelle, en tout cas de celle que moi qu'on pratique et que je pratique, et des fois j'ai la voix aussi de l'anthropologue qui me dit « essaye de questionner aussi qu'est-ce que tu fais en fait au quotidien ?»
Donc, difficile équilibre alors,
exactement,
apparemment.
Exactement.
Merci Robin Munier, en tout cas c'est à lire et c'est assez étonnant de découvrir aussi les abeilles sous cet aspect de la précarisation du vivant, ça s'appelle Des abeilles au travail, et vous signez cet ouvrage aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Elles se trouvent où d'ailleurs vos ruches, parce qu'on n'a pas du tout situé géographiquement.
Département de la Drôme.
Merci beaucoup à vous. Merci à Jean-Philippe Verret qui a préparé ce dossier, Loïc Frapsos à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission, Lucie Sarfati pour la coordination et la programmation de La Terre au Carré.